Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Khaled Karoury, fondateur de l'agence STO. Avec lui, nous avons évoqué le rapport qu'entretiennent les joueurs avec les réseaux sociaux, les bons côtés comme les dérives, le besoin de sensibiliser les entourages des joueurs et la gestion des critiques, parfois très sévères. Nous avons également abordé son travail sur la communication des footballeurs et l'aide apportée à travers des cours de média training sans pour autant tomber dans les phrases toutes faites et les récitations robotiques. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Khaled Karoury. Bonjour Khaled Karoury et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour Johan, merci pour l'invitation surtout.
Alors dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué? Alors ça peut être par son scénario, par une émotion particulière que tu as pu ressentir, par un résultat brut aussi. J'aime bien dire que c'est un peu ta Madeleine de Proust à laquelle tu aimes repenser de temps en temps.
Bah alors pour moi, la réponse à cette question, elle est assez évidente parce qu'elle regroupe à la fois le scénario, à la fois l'émotion, enfin c'est la totale. C'est le match Lyon-Lens de 2002, l'année du premier titre de l'Olympique Lyonnais, parce que le scénario est dingue, que c'est une finale du championnat à la dernière journée, ce qui est un fait assez rare, pour pas dire inédit à ce moment-là, parce que c'est le premier titre de l'OL et parce que c'est à domicile, enfin tout était réuni, il y avait vraiment un contexte particulier autour de ce match. Lens qui avait ses 8 points d'avance à mi-championnat, et puis petit à petit Lyon qui grignote pour arriver à cette finale, et puis on a apothéose avec ce premier titre qui va lancer ensuite la grande dynastie de l'Olympique lyonnais qu'on a connue dans les années 2000. Donc voilà, pour moi en tant que lyonnais, c'est vraiment le match qui a marqué mon adolescence, j'avais 15 ans à l'époque, et qui voilà, c'est vraiment l'âge auquel on est accro au foot plus que jamais, où on voit les footballeurs comme ses idoles, et voir l'Olympique lyonnais gagner son premier titre, c'était vraiment magique ce jour-là.
Justement, quel était ton rapport au football quand tu étais adolescent, même un peu plus tôt, quand tu étais enfant? Est-ce que tu en pratiquais en club ou juste avec des amis, ou même pas du tout, ce qui est aussi une possibilité? Et si tu pratiquais, est-ce que tu avais le secret espoir de finir professionnel comme à peu près tous les gamins à cet âge-là?
J'étais rapidement assez lucide sur mon niveau. Non, je le pratiquais avec des amis, voilà, cours de récré, les mercredis après-midi, les week-ends, etc. Mais jamais vraiment de façon assidue. De toute façon, voilà, comme je disais, j'étais assez lucide sur mon niveau. J'étais pas le plus grand technicien, j'étais pas le plus grand joueur qu'il y avait dans la cour de récréation. Par contre, j'avais le flair pour marquer des buts. J'étais toujours bien placé. J'étais un peu le Pipo Inzaghi de l'école. Donc là-dessus, c'était plutôt sympa. Mais non, aucun secret espoir. C'était vraiment, voilà. le football en tant que passion et le rapport ensuite au football en tant que fan, en tant que spectateur, que supporter. Bah, c'était viscéral, quoi. C'était regarder tous les matchs. À l'époque, j'avais pas Canal Plus, donc j'écoutais les matchs à la radio, je regardais en même temps le match encrypté, j'essayais de décrypter ce qui se passait à l'écran. Avec le recul, je me dis, j'étais un peu fou. Mais non, vraiment, quitte à regarder la télé encryptée avec la radio, mais vraiment à fond dans les matchs, à fond dans tout, découper les petits articles de presse sur mes joueurs préférés, ce genre de trucs. Enfin, j'étais accro, et puis voilà, en plus, ça coïncidait avec la période de l'Olympique Lyonnais qui commençait à dominer le football français, donc ce qui rajoutait encore à l'émotion de l'adolescent qui était à fond dans son football. Donc ouais, non, c'était avec les tripes que je suivais ça.
Alors, à défaut d'avoir le niveau pour être joueur professionnel, tu les côtoies de près depuis de nombreuses années maintenant, ces joueurs professionnels. D'abord comme journaliste et puis comme, on va résumer la chose comme ça, on va dire conseiller en communication. On va dire que c'est très très large, on va y revenir juste après à travers ton agence. Comment s'est faite la passerelle, justement, c'est ça qui m'intéresse, entre ta carrière de journaliste et l'ouverture de ta propre structure de communication, média training, on va y revenir un petit peu juste après.
Bon, moi, le journalisme, vraiment, c'était mon rêve de gosse. Et depuis l'âge de 15 ans, c'est ce que je voulais faire, journaliste sportif. J'avais ça en tête et uniquement ça en tête. Donc, j'ai tout fait pour y arriver jusqu'à avoir la chance de réaliser mon rêve d'être journaliste sportif et en plus de suivre tout particulièrement l'Olympique Lyonnais au quotidien. Donc, j'ai pu faire vraiment exactement ce que je voulais faire. Seulement, voilà, au bout de 7 ans et demi de journalisme, j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour de la question et d'avoir réalisé tout ce que j'avais à réaliser. Donc ça faisait quelques temps que j'avais en tête de quitter l'entreprise où j'étais, en l'occurrence le site Foot Mercato, et de voir autre chose. Encore fallait-il trouver l'idée. Et puis c'est en voyant des interviews de joueurs qui parfois tenaient des propos un peu incohérents, enfin, totalement disproportionnés avec ce qu'ils étaient au moment de leur carrière, et en voyant également les dérapages sur les réseaux sociaux des uns et des autres, que je me suis dit qu'il y avait peut-être un travail à faire pour accompagner les joueurs justement à la fois dans leur rapport aux réseaux sociaux, mais aussi les aider à communiquer, à faire passer leur message correctement et non pas leur mâcher le boulot, mais vraiment les aider, les accompagner dans la façon de communiquer auprès des médias. Et de cette idée, est née l'agence STO en juillet 2017.
Alors, dans ton travail quotidien avec plusieurs joueurs, je vais en citer quelques-uns, Lucas Touzard, Mehdi Zarkan, Alban Lafont, Bertrand Traoré et bien d'autres. Tu effectues plusieurs tâches différentes, mais qui ont, j'ai le sentiment, un peu le même but, c'est-à-dire faciliter la vie du footballeur professionnel sur un travail qui ne concerne pas le terrain et ses performances à proprement parler, mais un travail qui a potentiellement des conséquences sur ce qui peut se passer en dehors du terrain et parfois même sur le terrain. Quand on est au cœur d'un fameux mot, d'un bad buzz ou ce genre de choses-là, ça peut avoir des conséquences aussi sur ta confiance, sur du coup les performances sur le terrain. Ton métier, c'est d'être vraiment un facilitateur aussi au quotidien pour tes joueurs.
Bien sûr. Bon, on a vu le cas extrême qu'on a eu à l'époque avec Serge Aurier, dont le dérapage sur les réseaux sociaux a eu des conséquences claires et nettes sur le terrain, avec une mise à l'écart temporaire, avec une vidéo qu'il a dû faire sur le site internet du club, des excuses publiques pour exprimer son désarroi face à la situation. Il y a eu un avant et un après l'affaire Serge Aurier en matière de communication chez les joueurs de foot. Et je pense que ça a fait prendre conscience à beaucoup que contrairement à l'ancienne époque où la communication, c'était pas si important que ça, on parlait à la presse autour d'un terrain de foot et puis voilà. En 2010 et maintenant 2020, la communication, ça fait partie intégrante du métier de footballeur. Au même titre qu'un footballeur s'entoure d'un nutritionniste, d'un préparateur physique, d'un préparateur mental, pour gérer tous les aspects qui lui permettent d'optimiser ensuite ses performances sur le terrain, il lui est désormais primordial d'avoir également quelqu'un qui s'occupe de sa communication, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec les médias en 24-24, avec les médias spécialisés, les chaînes spécialisées dans le foot, les sites internet qui font du contenu foot et du flux H24, la communication c'est devenu quelque chose de réellement fondamental pour le joueur. C'est aussi en ça voilà, que j'ai eu cette idée, parce que en étant journaliste, j'ai bien vu l'évolution des médias et qu'aujourd'hui, le footballeur était entre guillemets, c'est pas le mot, mais entre guillemets, traqué H24 par les médias, dans le sens où la moindre petite phrase va être interprétée, surinterprétée, réinterprétée, décortiquée et ainsi de suite. Et d'une moindre phrase, on va en faire un buzz pendant 3, 4, 5 jours, voire plus, et ça peut suivre le joueur.
D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de phrases, hein. Parfois un simple like sur Instagram peut entraîner des conséquences médiatiques assez importantes et avoir un joueur qui se retrouve au cœur de l'actualité pour finalement trois fois rien, mais c'est des choses qui font parler et qui sont régulièrement mises en avant dans la sphère médiatique au sens large. On a tous en tête des communications un peu lunaires de certains joueurs, et d'ailleurs tu en as fait le constat tout à l'heure en disant que c'est ça qui t'avait fait aussi penser et pencher la balance vers la communication. On peut parler d'erreurs en interview, d'erreurs dans la vie privée, de choses qui se retrouvent sur internet comme Serge Aurier, comme tu as pu le dire, des erreurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sens déjà quand tu commences à travailler avec un joueur, on parlera après de quand il est un peu installé avec toi et tout ce que vous mettez en œuvre pour que ça se passe bien, mais quand tu commences à aborder le sujet de la communication avec les joueurs, est-ce que tu sens, là je parle vraiment de communication au sens large, hein, pas forcément de réseaux sociaux, de prise de parole, on va résumer ça comme ça, est-ce que tu sens déjà que ça les intéresse? Est-ce que répondre à des médias en zone mixte, en interview, en one-to-one, où là on a un peu plus le temps de s'installer, en avant-match, est-ce que tu sens que ça les intéresse ou est-ce que tu sens que pour eux, c'est vraiment une contrainte? Sachant qu'il y a des personnalités un peu différentes, hein, ça c'est évident.
C'est ce que je voulais dire, bon, c'est du cas par cas vraiment. Mais je sens qu'il y a un intérêt parce que justement, je sens qu'il y a une prise de conscience des joueurs qui se rendent compte qu'aujourd'hui, leur parole est attendue et qui sont attendus au tournant quand ils vont s'exprimer. Il y a des joueurs qui réellement, j'ai déjà été confronté à ça, par exemple, des joueurs qui vont me dire, moi, Khaled, j'estime que je ne peux pas parler encore pour le moment parce que je n'ai pas assez fait de média training, parce qu'au club, on ne m'a pas donné les outils pour m'adresser aux médias, dans le doute, parce que je sais que les médias peuvent ensuite interpréter mes propos, qu'une petite phrase mal tournée, mal prononcée, peut avoir des conséquences, je préfère carrément me retirer et me dire non, je ne vais pas parler, que ce soit en zone mixte, en conférence de presse, tout ça, je vais passer mon tour. Il y a vraiment une bascule, j'ai l'impression, au niveau des joueurs. Au tout début, quand je me suis lancé dans la boîte, il y en avait beaucoup qui me disaient oui, moi, la communication, ça ne m'intéresse pas plus que ça, je parle et puis voilà, je pense que ça va très bien. Certains même qui, pourtant, m'ont inspiré l'idée de la boîte et qui m'ont fait dire qu'il y avait des problèmes de communication, ces mêmes personnes à qui j'ai proposé mes services m'ont dit « Non, t'inquiète, moi, pas de souci, je parle et ça me va comme ça », sans se rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir. Aujourd'hui, 3 ans après, bientôt 4 ans, je me rends compte que beaucoup ont évolué et ont pris conscience de l'impact de leur communication et de l'impact que peuvent avoir leurs propos et surtout du côté néfaste que ça peut avoir et des répercussions que ça peut avoir en cas de mauvaise interprétation.
Tu disais, il y a des joueurs qui ne se sentent pas au début, qui ne veulent pas parler parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas encore armés pour ça. Finalement, tu es entre le conseiller communication et le préparateur mental, limite. C'est-à-dire donner confiance aux joueurs, donner confiance en ses moyens de pouvoir s'exprimer. On est limite plus proche d'un travail mental que d'un vrai travail de coaching en communication.
Oui, les deux vont de pair en fait, parce que c'est vrai qu'ils sont quelque part un peu bloqués, parce qu'ils savent que les hauts clubs, ils n'ont pas eu toutes les clés nécessaires pour apprendre à communiquer, parce que voilà, au club, on fait du média training, mais on gère un groupe de 15-20 joueurs en même temps. Donc, on va pas aller dans les spécificités de chacun, on va pas aller dans le détail des problèmes que peuvent rencontrer certains, ça va être assez superflu. Et il y a des joueurs qui réellement estiment qu'ils ne se sentent pas capables de parler parce que c'est un vrai travail, ça s'apprend. Quand on a 16-17 ans, on n'a pas forcément les armes pour arriver face à une armée de 10 caméras et en zone mixte après un match, alors qu'on est en sueur, qu'on est fatigué, qu'on est son premier match en professionnel, et on va te dire « va parler ». Ça peut paraître bête, mais on ne se rend pas compte, mais c'est un moment qui est fort dans la carrière d'un jeune joueur. Je mets au défi tout jeune homme de cet âge-là d'y aller et de tenir des propos de qualité, concis, propres, etc. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire pour, petit à petit, à force de donner justement des clés au joueur, à force de lui apprendre les usages, et que lui, petit à petit, prenne l'habitude et que ça devienne de plus en plus naturel. Il y a un travail de libération qui se fait, et comme tu le dis, au final, ça revient à un travail également psychologique, parce que le joueur va petit à petit se sentir mieux, se sentir plus à l'aise, mieux dans sa peau, et se libérer, se sentir mieux, et c'est aussi comme ça qu'on communique bien.
Est-ce que tu as le sentiment que ton passé de journaliste dans ton cursus, ça met en confiance aussi les joueurs parce que quelque part, tu as les bons réflexes quand tu fais du média training parce que tu as été de l'autre côté de la barrière. Tu peux faire de la prévention, leur dire à qui ils vont parler, c'est-à-dire même rien que présenter le journaliste qu'il aura en face ou dans un pool de journalistes, tu vois, en zone mixte, en lui disant, je te prends un exemple tout bête, hein, mais à Lyon, celui de l'équipe qui sera en zone mixte, c'est telle personne, il a cette sensibilité-là ou autre chose. La personne de Foot Mercato qui suit l'OL, c'est telle personne. La personne de RMC qui suit l'OL, c'est telle personne, etc. Leur présenter leurs interlocuteurs, leur présenter aussi bah, un petit peu les choses auxquelles ils vont devoir faire face, à quoi ils doivent s'attendre, etc. Est-ce que tu as le sentiment que ce côté ancien journaliste met en confiance les joueurs parce que tu peux leur présenter un peu les bons et les mauvais côtés, entre guillemets, de ce qu'ils vont avoir en face d'eux ?
Ça, j'en suis certain, j'en suis convaincu. Nous, l'avantage qu'on a, comme tu le dis, c'est qu'on était journaliste. On n'est pas des purs communicants, même si on a fait de la communication dans notre cursus voilà, d'étudiants, etc. Mais notre cœur de travail, ça a été le journalisme. Et du coup, les joueurs sont plus, je pense, en confiance avec nous parce qu'ils savent que ce qu'on va leur dire, les clés qu'on va leur donner, ce n'est pas juste, entre guillemets, du travail de communicant bateau qui peut aussi les desservir parce que parler pour parler et avoir des contenus un peu tout faits voilà, de communicant, ce n'est pas ce que recherchent les journalistes, ce n'est pas ce que recherchent les supporters quand ils vont lire une interview d'un joueur. Et avoir ces clés-là, nous, lui dire en tant qu'ancien journaliste, écoute, tu vas faire face à tel journaliste, il pourrait te poser ce genre de questions parce qu'on le connaît, on sait comment il est, on sait sur quel terrain il peut venir t'attaquer, etc. Et te trouver des angles de réponse, te dire, bah, toi, qu'est-ce que tu peux faire passer comme message ? Bah, tiens, nous, on était journalistes, on sait comment mieux faire passer ton message, quelles phrases peuvent aussi accrocher auprès du journaliste pour avoir un titre qui va plus lui plaire, plus l'interpeller, et du coup, quelles phrases vont aussi ressortir auprès des supporters, parce que c'est super important. Quand on fait une interview, on a tendance à penser aux médias et aux journalistes auxquels on s'adresse. Mais avant tout, il faut penser aux supporters. C'est lui qui va lire l'interview, c'est lui qui va ensuite faire ce qui va être repris, les discussions qu'il va y avoir sur les réseaux, etc. Il faut avant tout penser aux supporters. Et nous, en tant qu'anciens journalistes, ben, on aura ces clés-là pour lui permettre d'avoir les quelques petites bonnes phrases, les quelques bonnes tournures de phrases qui vont faire en sorte que son discours va aussi bien passer auprès des supporters et faire en sorte que son message soit compris de tous.
Est-ce que tu as un exemple en tête de quand tu étais de l'autre côté de la barrière, donc quand tu étais journaliste, où tu as vu un joueur s'exprimer, alors quelle que soit la prise de parole, réseaux sociaux ou pas, ou interview classique, ou zone mix, ou même tu vois les interviews tout de suite après le coup de sifflet final auprès du journaliste bord terrain, où tu t'es dit, compliqué ce qu'il vient de nous dire, où tu l'as même traité parfois en tant que journaliste sur le site de Foot Mercato par exemple. Est-ce que tu as un exemple en tête que tu peux reprendre par exemple auprès de tes joueurs aujourd'hui en leur disant bah, tu vois, lui à cette époque-là, il a fait une erreur et ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas d'idée de le pointer du doigt, c'est juste dire il a fait une erreur, voilà ce qu'il faut éviter de refaire.
J'ai pas vraiment d'exemple d'erreur, mais j'ai des exemples de joueurs en fait dont je me demandais pourquoi ils venaient nous parler. Ou à des conférences de presse, le joueur venait, tirait la gueule et répondait par oui, non, oui, peut-être, oui, effectivement. Faisait des phrases de 3 secondes en tirant la gueule et je me disais, mais personne ne t'a forcé à venir, pourquoi tu viens à ce moment-là ? Ce que je dis toujours à mes joueurs, c'est quand vous donnez une interview, il faut qu'il y ait un message à faire passer. Si c'est juste donner une interview pour dire, regardez, j'ai ma page dans l'équipe ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Une interview, c'est aussi une communication, donc c'est aussi un message à véhiculer, des idées à faire passer. Si c'est pour tirer la gueule que quand on te filme et que quand ça va être diffusé à la télé, on voit un joueur qui n'est pas heureux d'être là, qui a envie de parler à personne, le message, il est mauvais, que ce soit pour les médias qui ensuite vont se braquer vis-à-vis de toi, que ce soit pour les supporters qui vont se dire « mais ce mec-là, bah, s'il n'est pas heureux, bah, il n'a qu'à partir, personne ne le retient ». Et ça arrivait très souvent que les joueurs viennent parler alors qu'en fait, ils n'ont pas envie de parler. Moi, je dis toujours à nos joueurs, si vous acceptez de faire une interview, jouez le jeu correctement, sinon ça ne sert à rien.
Alors, tu disais des joueurs qui n'ont pas forcément envie de parler. Parfois, c'est des joueurs qui te sortent beaucoup de phrases bateau. Et justement, il y a une frontière qui peut être assez mince entre la communication et les phrases bateau. C'est-à-dire, comment réussir à, puisque tu fais du media training, à coacher ces joueurs-là, sans pour autant que ça devienne de la récitation de phrases toutes faites, l'important c'est les 3 points, le groupe vit bien, tous les trucs qu'on entend habituellement et qu'on tourne un petit peu en dérision, parce qu'au final, tu le disais, quand une personne n'a pas envie de communiquer et qu'elle le fait contre son gré, entre guillemets, tout le monde est perdant. Il y a déjà le joueur, il y a le journaliste, et il y a les supporters qui, au final, n'apprennent strictement rien. Comment éviter de verser dans l'aspect purement communicationnel et de la récitation de choses ou de conseils que vous leur donnez ?
Bah, je pense que c'est là que notre passé de journaliste est primordial. C'est que là, on n'aura pas le regard du communicant qui va dire « à tout prix, il faut éviter, entre guillemets, de S'il y a un problème, il faut le cacher. Si la situation va mal, il faut essayer d'arrondir les angles. Non, nous, en tant qu'anciens journalistes, on sait comment ça se passe. Ce qu'on va dire aux joueurs, c'est écoute, si tu restes, par exemple, sur ton équipe vient de perdre ses 5 derniers matchs, on ne va pas te dire de dire aux journalistes tout va bien, vous inquiétez pas. Non, si ça ne va pas, si en interne ça ne va pas, si toi, tu n'es pas bien dans ta peau, si toi, tu as envie de pousser un coup de gueule, on va t'aider à passer ce coup de gueule. On va te donner les clés pour le passer. On va te dire, dis-nous ce que tu as envie de dire. Et ensuite, on va te dire, cette phrase-là, peut-être place-la comme ça. Insiste plus sur ce mot-là, sur cet aspect-là des choses. Prends par ce biais-là, ce genre de choses. Mais on ne va jamais dire aux joueurs, fais le robinet d'eau tiède et ça va bien se passer. Non, nous, l'idée, c'est au contraire de lui dire, si tu as envie d'y aller, voilà comment y aller. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre nous et d'autres agences qui peuvent être concurrentes avec des gens qui faisaient de la communication avant, c'est que nous, en fait, on prend le problème à l'envers. On ne va pas dire au joueur, tiens ton discours, rabâche-le. On va lui dire, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Voilà comment tu peux le prononcer intelligemment.
En préparant l'émission, tu me disais qu'il t'était déjà arrivé de... Et ça, c'est un aspect que je trouve vraiment intéressant, de travailler en direct avec un joueur. C'est-à-dire, juste après sa performance, s'il est prévu, par exemple, pour aller en zone mixte, on sait que parfois, c'est volontaire. C'est-à-dire que le joueur s'arrête volontairement, ça c'est plutôt les jours de victoire. et puis parfois c'est plutôt le responsable presse qui va trouver la personne qui veut bien parler après une défaite. Parfois on n'a même personne après les matchs, et ça c'est un vrai problème, c'est autre chose. Et tu me disais que tu avais déjà travaillé avec un joueur en lui disant tu vas aller en zone mixte dans 10, 15, 20 minutes. Moi j'ai vu ton match, tu parles un peu avec lui par WhatsApp ou par une messagerie, peu importe, et tu lui donnes des conseils pour répondre à ce qui va sans doute lui être demandé. Et là encore, ton passé de journaliste fonctionne bien, parce que généralement, les questions après une défaite, je ne vais pas dire qu'elles sont toutes les mêmes, mais il y a quand même un dénominateur commun dans beaucoup de questions en cas de défaite. Et je voudrais que tu nous parles de ça, parce que je trouve que c'est un... On pense tous à la communication, tu sais, interview en one-to-one, on a le temps de se poser, grand entretien, etc., ou prise de parole sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, en zone mixte, le fait de débriefer tout de suite avec lui son match et de le conseiller et de voir si lui a le même ressenti que vous, d'un point de vue extérieur, puisque lui était sur le terrain et vous devant la télé ou en tribune, peu importe, je trouve que c'est hyper intéressant.
Ouais, ça c'est quelque chose qu'on avait vraiment à cœur de faire, parce que en tant que journaliste, on sait que la zone mixte, c'est un moment vraiment particulier. Il peut se passer beaucoup de choses en zone mixte. C'est là que généralement le joueur est aussi le plus entre guillemets livré à lui-même et du coup le plus susceptible de livrer un contenu intéressant. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur de faire cet aspect-là de la communication. Donc oui, comme tu le disais, nous en fait on regarde chaque match de nos joueurs en entier, avec les commentaires, ce qui se dit également sur les réseaux, les commentaires des journalistes présents sur le terrain, etc. On regarde un peu tout ce qui se passe et dès le coup de sifflet final, on va envoyer un petit message à notre joueur en lui disant « Voilà grosso modo, nous, ce qu'on a entendu du match. Ta performance, il y a ça qui a été dit. La performance globale de l'équipe, voilà ce qu'on a vu. Ton entraîneur, voilà ce qu'il a dit au coup de sifflet final. » Du coup, déjà, on lui dresse un premier portrait de la situation. Ensuite, on va lui dire maintenant, nous, en tant que journaliste, on a un peu une idée du coup des questions que tu devrais y avoir. Voilà quelques thèmes. Donc, on lui donne une petite liste de thèmes. Et ensuite, en fonction de cette liste, on va lui dire toi, grosso modo, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui, de quoi tu as envie de parler. Il va nous répondre pareil par message rapidement moi, j'aimerais parler de ça, répondre ci, ça, ça. Et encore une fois, comme je te disais, nous, en fonction de ce que lui va nous dire, on va lui dire, insiste peut-être là-dessus, mets l'accent sur ce mot-là, oublie pas de parler de tel sujet à un moment donné, parce que c'est important. Par exemple, s'il y a une polémique avec l'arbitre et que le joueur, il a à cran, qu'il a envie de critiquer l'arbitre, là, par contre, on va peut-être lui dire effectivement que quand il s'agit du corps arbitral, s'il veut éviter de se prendre une amende ou ce genre de choses, il va peut-être falloir se calmer un peu, mais au contraire, parler d'autres choses. Enfin, c'est vraiment un travail de fond qu'on fait, et minutieux, parce que la zone mixte, c'est vraiment un moment clé. Mais encore une fois, avec toujours le maître mot de dire, pas mâcher le travail du joueur, mais vraiment travailler en intelligence avec lui et main dans la main pour l'aider à passer son discours comme il l'entend.
Dans ton métier, le mot important, c'est conseil. Et par conseil, c'est, on peut dire assistance aussi. C'est un peu comme au foot, c'est une passe décisive. C'est-à-dire que tu peux faire la bonne passe décisive et qu'il n'y ait pas le but derrière et que l'attaquant rate par exemple l'occasion. Si on reprend un peu cette comparaison stylistique un peu bizarre que je viens de faire avec dans ton métier, il y a la passe décisive que tu vas faire au joueur en lui expliquant ce qu'il peut dire, comment le dire, ce qui a été dit, etc., pour lui donner des clés. Et ensuite, le joueur peut décider de suivre tes conseils. C'est quand même un peu la base. Si vous travaillez ensemble, j'imagine que c'est aussi pour ça. Mais il y a peut-être aussi le côté émotion qui va ressortir, tu vois, le côté réaction à chaud, etc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un joueur, un de tes joueurs, aller totalement à l'encontre ou du moins ne pas trop avoir écouté tes conseils et avoir réagi plutôt à chaud ou avoir insisté sur ce qu'il voulait lui dire et faire passer comme message avec lequel tu n'étais peut-être pas trop d'accord?
Alors non, je t'avoue que ce cas de figure n'est pas trop arrivé, parce que c'est vrai voilà, qu'on regarde à chaque fois du coup, des briefs ce que le joueur a dit ensuite, on regarde un peu le lendemain matin dans la presse, etc., ce qui est sorti. C'est vrai que c'est rarement arrivé, j'essaye de me rappeler, mais je n'ai pas le souvenir de ça. Généralement, le joueur, il est assez réceptif, parce que voilà, il sait qu'on est là pour lui et qu'on est là pour son bien. Donc non, je n'ai pas de souvenir d'un joueur qui allait totalement à l'encontre de ce qu'on lui a dit. Par contre, à l'inverse, j'ai peut-être le souvenir de des fois où de me dire... Voilà la liste des questions finalement qui ont été posées en zone mixte, etc. Et de me dire, ah, c'est vrai que ce thème-là, je l'ai peut-être oublié, que c'est peut-être moi finalement qui n'ai pas mis la passe décisive correctement. Plutôt dans ce sens-là. Mais généralement, les joueurs, ils sont assez adroits. Comme sur le terrain, j'espère pour eux, ils sont assez adroits face au but.
Là, on parle de la communication des joueurs. Et sauf erreur de ma part, au sein de l'agence STO, vous ne conseillez pas d'entraîneur. Est-ce que c'est une évolution qui te semble tout à fait pertinente pour des entraîneurs ? De se faire conseiller sur la manière d'aborder les choses immédiatement à chaud après les rencontres, sur la manière de présenter les choses en conférence de presse d'avant-match, sur les leviers actionnés pour féliciter, critiquer un de ses joueurs, féliciter l'équipe de manière générale, critiquer l'équipe de manière générale, de parler de la relation avec les dirigeants. On sait qu'un entraîneur aujourd'hui prend très régulièrement la parole, même de plus en plus, parce que si on fait une semaine type, on a quand même la conférence de presse d'avant-match, on a souvent de plus en plus, parce que c'est réclamé aussi par les ayants droit, une interview en bord de terrain avant le match, on a après le match, on a donc la zone flash après match, on a la conférence de presse. Dans certains pays, on a même des zones flash multiples avec plusieurs diffuseurs, etc. Est-ce que c'est un truc que tu aimerais faire, par exemple ?
Bah, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place, pour être tout à fait honnête. On a discuté avec 2-3 entraîneurs, mais malheureusement, c'est pas allé plus loin.
Est-ce que tu sais pourquoi ?
Bah, je pense que les entraîneurs, malgré tout, d'eux-mêmes travaillent plus en amont leur communication. D'eux-mêmes vont plus réfléchir à ce qu'ils vont dire. Le joueur, il a longtemps eu tendance à aller à la conférence de presse, à se présenter. Enfin, je prends l'exemple de la conférence de presse, hein, mais à se présenter en conférence de presse sans avoir en amont mûri son discours et réfléchi à ce qu'il allait bien pouvoir dire ou aux questions qu'il pourrait y avoir. Parce qu'on a été dans un système de pensée qui était celui-là, où à l'époque, la communication, bah, on faisait ça comme ça et puis basta. Je pense que les entraîneurs d'eux-mêmes ont tendance plus à mûrir eux-mêmes leur discours. Alors après, ça peut être en bien ou en mal, hein, parce que quand on n'est pas communicant dans l'âme, quand on n'a pas malgré tout les codes, parce que ça reste un métier à part entière, hein, même si on est entraîneur ou on n'est pas communicant, on n'est pas né avec une formation de communicant, mais au moins ils parlent avec leur authenticité à eux, de la façon qu'ils veulent. Donc je ne peux pas leur reprocher du coup de nous dire, bah, écoutez, moi je préfère ne pas travailler avec vous parce que bah, je mûris mon discours moi-même et je préfère le faire comme ça. Au contraire d'un joueur qui, lui, bah, aura pas forcément le temps de se dégager du temps pour préparer tout ça. Mais oui, non, nous, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place. Malheureusement, ça ne s'est pas encore fait. Donc on ne désespère pas qu'un jour, notre travail puisse aussi s'étendre au métier d'entraîneur. Mais je pense que la différence, elle se fait là, sur le fait que les entraîneurs, d'eux-mêmes, mûrissent leur réflexion en termes de communication avant de se présenter face aux médias.
Et peut-être qu'en tant que leader, parce que l'entraîneur est un leader de groupe aussi, ils ont, comme tu disais, en parlant de réflexion, ils ont sans doute réfléchit un peu plus aux conséquences et à la portée des mots. C'est-à-dire qu'il se pose sans doute un peu plus la question de « Tiens, mon attaquant n'a pas marqué depuis 5 matchs. Est-ce que c'est parce qu'il en manque de confiance ? Est-ce que c'est parce que techniquement, il rate tout ? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit, il a envie de partir, etc. Et, » et du coup, il actionne peut-être différents leviers selon le cas précis. Si en gros, il fait rien à l'entraînement, ben, il va peut-être plutôt avoir tendance à dire, sans forcément l'allumer, mais à dire, bah, en ce moment, il travaille mal, par exemple. Si c'est un manque de confiance, bah, avoir à choisir des mots pour le booster un petit peu, pour le réconforter, pour lui redonner confiance. C'est peut-être un travail que les joueurs ne font pas parce qu'eux, ils sont dans leur performance, j'allais dire, vraiment individuelle, alors que l'entraîneur est un leader de groupe.
Bien sûr, il y a aussi de ça, voilà. Conseiller en communication peut aider l'entraîneur sur tout ce qui est entre guillemets général, voilà, ce qui relève des résultats, ce genre de choses. Mais ensuite, quand on rentre voilà, dans le travail individuel sur chaque joueur, quand il faut s'exprimer sur la situation personnelle d'un joueur qui est en difficulté face au but, comme tu le disais, ou qui est en perte de confiance, ce genre de choses, c'est tellement du travail entre guillemets mental sur le joueur que seul l'entraîneur a en réalité les clés pour en parler. Parce que seul lui le connaît réellement. C'est pas le conseiller en communication qui n'a pas accès aux entraînements, qui n'a pas accès à l'intimité du vestiaire, qui va pouvoir réellement l'aiguiller. Malgré tout, je pense que c'est un travail qui peut s'étendre, parce que je veux pas donner de nom comme ça, mais on connaît tous des entraîneurs qui se pensent de bons communicants et qui en réalité pourtant font plus de bad buzz qu'autre chose quand ils sont en conférence de presse.
Dans vos missions à l'agence STO, il y a aussi le community management, donc la gestion des réseaux sociaux. Alors c'est un vaste sujet, les réseaux sociaux et les sportifs, on peut même élargir un peu à tous les sports. Avec ton expérience, tu me disais tout à l'heure, on a le sentiment qu'ils ont quand même plus compris, notamment depuis l'affaire Serge Aurier. Est-ce que encore aujourd'hui, pour certains, tu sens un peu de naïveté à ce niveau-là, ou est-ce que tu sens maintenant qu'ils sont vraiment briefés, qu'ils ont vu des exemples de choses où des joueurs qui ont mal agi, mal parlé, peu importe, ont eu des retours de bâton assez difficiles? Tout ça fait que finalement, ils sont quand même plutôt bien au courant de ce qu'il faut faire et pas faire.
Ils sont quand même sensibilisés. Alors, nous, pour le coup, quand on a présenté l'agence aux joueurs qu'on a sollicité au départ en créant l'agence, directement, ce qui leur parlait le plus en termes de travail de communication, c'était les réseaux sociaux. Plus que le travail face aux médias, aux journalistes, etc., c'était vraiment cet aspect-là, parce que l'affaire Serge Aurier a vraiment vacciné beaucoup de joueurs, je pense. Et il y a eu une vraie prise de conscience de l'impact que pouvaient avoir les réseaux sociaux. Surtout que les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre. Autant quand on est face à un travail, face à un journaliste, une interview, etc. Pendant longtemps, les joueurs sont retombés sur leurs pattes en disant « Oui, mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire, ça a mal été retranscrit, ce genre de choses. » Là où les réseaux sociaux, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de filtre. C'est toi et ta communication directement livrée au public. S'il y a un problème, il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien qui pourra justifier, c'est ton erreur, point. Donc là-dessus, je pense que ça a vacciné beaucoup de joueurs et que tout de suite, c'est vraiment moi ce qui m'a marqué, c'est que rapidement, les réseaux sociaux, oui, on veut travailler avec vous sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, il y a toujours un peu de naïveté, parce qu'on reste sur des joueurs qui ont 18, 19, 20, 21 ans. Enfin, à cet âge-là, on ne réfléchit pas à tout, à toutes les conséquences. Je mets au défi n'importe quel jeune homme de 18 ans de ne pas faire d'erreur lui-même sur ses réseaux personnels, en rigolant avec ses potes, en mettant des bêtises sur leurs murs, en les taguant sur des trucs qui n'ont pas vraiment grand sens. Je mets au défi quiconque de ne pas le faire. Malheureusement, comme ils sont footballeurs pros, ils ont une image qui est autre, ils ont une dimension qui est autre, ils ont, qu'ils le veuillent ou non, que ce soit bien ou non, je ne sais pas, je ne suis pas juge, mais ils ont valeur d'exemple aux yeux de certains. Et du coup, il faut faire attention. Mais moi, ça m'interpelle toujours quand je vois, par exemple, des supporters sur Twitter qui vont cracher leur venin sur un joueur parce qu'il aurait liké le post d'un adversaire, mais qui, avant d'être son adversaire, c'est aussi son ami d'enfance. Sous prétexte que son équipe a perdu face à cette équipe, il n'aurait pas le droit de liker le post de son ami. Je pense qu'on perd un peu la tête avec ce genre de choses-là et que... qu'on le veuille ou non. Alors oui, t'as peut-être perdu, je sais pas moi, on va dire, redonner un exemple. Peut-être que Bordeaux a perdu contre Monaco. Mais qu'est-ce que ça peut faire que X va liker le poste de Y alors qu'ils se connaissent depuis 10 ans, qu'ils ont été en centre de formation ensemble, qu'ils ont été amis, et que quand un joueur fait défiler son compte Instagram, il voit le poste de son ami, et instinctivement, il va cliquer, il va liker, sans réfléchir aux conséquences. Et malheureusement, on est toujours à la recherche du buzz, du petit truc, de la petite bête pour nuire à l'image des joueurs. Et là-dessus, c'est dommage. Alors nous, en tant que conseillers en communication, c'est notre métier de leur dire « Écoute, si tu peux éviter de liker ce truc, peut-être que fais-le, parce que peut-être que pour toi, c'est rien. Mais bon, si ça peut éviter de braquer certains, ne te prends pas la tête et ne le fais pas. » Mais j'avoue qu'il y a des choses comme ça qui m'interpellent et qui, je me dis qu'on vit quand même dans une époque un peu particulière.
Même question que tout à l'heure pour le travail avec les médias, on va dire traditionnels ou classiques. Comment faire pour ne pas transformer son compte Twitter ou Instagram en un simple compte de promotion avec du contenu lisse, à base de photos d'entraînement super bien faites par le photographe du club, les photos des chaussures de l'équipementier. On est tous tombés sur ce genre de compte de joueurs pro où tu te dis, tu commences à le suivre et tu te dis, mais en fait, au bout de 3 ou 4 posts, tu te dis, mais pourquoi je le suis? Parce que tu regardes, c'est à chaque entraînement une photo officielle du club, qui veut pas forcément dire grand-chose d'ailleurs. C'est la photo de Adidas, Nike, Puma, peu importe, qui vient de recevoir. Et pas grand-chose d'autre, en fait. Une photo du match aussi super belle de Getty Images. Et voilà, et en fait, tu te dis, mais quel est l'intérêt de le suivre? Parce que ça, c'est le côté journaliste, entre guillemets, mais même le côté supporter. Quand tu es supporter et que tu t'abonnes au compte des différents joueurs, au-delà du fait d'avoir des photos d'entraînement, ok, très bien, mais ils l'ont à la limite sur le média officiel du club, déjà, en lui-même, c'est pour essayer d'avoir un peu le tout ce qui est l'à côté, l'envers du décor, des tranches de vie. On demande pas de montrer qu'il est en train de manger un concombre, une salade de concombre, Mais si tu veux, des petits trucs rigolos, parfois, avec un coéquipier, ce genre de choses-là, comment faire pour que le compte, en fait, il soit vivant, tout simplement vivant et naturel, plutôt que un vrai mur de communication.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Question.
C'est pas forcément simple parce qu'il y a des joueurs qui, toute personnalité qu'ils sont, n'ont pas envie de montrer leur vie entre guillemets privée, des choses intimes, etc. Mais nous, ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est comme tu le disais justement, c'est que quand une personne va s'abonner à ton compte, c'est qu'elle a envie de te voir toi. C'est qu'il a envie de voir autre chose, c'est que tu te dois de lui donner, entre guillemets, quelque chose de différent, de singulier, parce que, comme tu le disais, sinon tu vas sur le site officiel du club, tu retrouves les photos, tu retrouves l'actualité du club. Quand on va sur un réseau social, son nom l'indique, hein, y a le mot social dedans, donc il faut se donner aux supporters, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc nous, l'idée, c'est de leur dire, leur faire un travail de pédagogie pour leur expliquer, même si t'aimes pas ça, voilà, de temps en temps, une petite photo de toi, je sais pas, moi, quand c'est Noël, une petite photo de toi en famille, ça peut pas faire de mal. Quand t'es dans le vestiaire, une petite photo avec un de tes coéquipiers que t'aimes bien, ou un petit moment où vous charriez, ce genre de choses, faire une petite story, voilà, où tu blagues avec tes potes, enfin, des petits trucs comme ça de temps en temps. Alors, bien sûr, faut pas le faire constamment, parce qu'il y a aussi l'excès inverse, il y a aussi les supporters qui vont ensuite se plaindre quand un joueur montre ce genre de choses alors que son équipe perd. Donc, il faut toujours aussi garder l'équilibre entre le sportif et le personnel parce que la bascule, enfin, dans un sens ou dans l'autre, au final, on a toujours des pour et des contre. D'un côté, on va se plaindre quand un joueur en donne pas assez. D'un côté, on va s'en plaindre aussi quand le joueur en donne alors que la situation sportive du club ne l'exige pas.
Ouais, ou on lui dit va bosser plutôt que d'être sur les réseaux sociaux, en gros.
Pour schématiser, je n'osais pas le dire comme ça, mais c'est exactement ça. Donc, oui, voilà, c'est toujours ce travail de. Il faut jongler entre les deux, toujours constamment en équilibre. Et c'est là qu'on est utile parce que, voilà, quand on n'est pas encadré, qu'on aime beaucoup par exemple les réseaux et qu'on aime s'afficher, on va pas forcément réfléchir à l'aspect sportif et à se dire ouais peut-être que là je devrais me mettre en retrait, ou au contraire quand on est trop penché sur l'aspect sportif et que ça va pas, on va peut-être ne plus communiquer du tout sur ses réseaux. Quand on voit par exemple un joueur qui est sur le banc depuis 3-4 matchs, on va peut-être se renfermer sur lui-même et ne plus communiquer, alors que c'est justement au contraire là qu'il faut peut-être le plus communiquer, là qu'il faut montrer justement qu'on est là aux entraînements, qu'on se bat pour sa place, qu'on y croit, qu'on lâche pas, qu'on est là pour l'équipe. C'est aussi des messages à faire passer ça aux supporters. Et c'est là que nous, en tant que conseillers, on a un intérêt, c'est qu'on a le regard extérieur pour lui dire « Ah, bah peut-être que là, oui, tu joues moins, peut-être que toi, là, naturellement, tu n'as pas envie de poster, mais au contraire, vas-y, là, on a cette photo de toi, vas-y, mets-la, parce que ça montre que tu as la niaque, que tu es là, que tu te bats, que tu subis pas la situation et que tu n'en as pas rien à faire de la situation de ton club, qu'au contraire, tu en veux et que tu es toujours dans la course. » Et c'est des choses comme ça, voilà, des petites clés qu'on peut leur donner, des petites astuces pour servir de leur réseau à bon escient. Parce que les réseaux sociaux, c'est aussi une façon de communiquer.
Alors, on va prendre un exemple. Pendant qu'on enregistre, je suis actuellement sur le compte de Lucas Touzard, le compte Instagram de Lucas. Et il y a pas mal de choses qui m'interpellent et que je trouve intéressantes. Au-delà de ce que, comme j'ai dit, les photos de match, les photos d'entraînement. Là, je parle pas de story, hein, parce que très sincèrement, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas de story en cours. Si je parle vraiment des photos mises sur son profil, il y a un vrai mix entre sa vie en club et ce qu'on a expliqué, photos de match, photos d'entraînement, et puis des petites choses un peu perso. Pour un exemple, photos pendant les fêtes de fin d'année avec, j'espère pas me tromper, sa compagne, a priori.
Tout à fait.
Voilà. Il y a une photo où il est au bord d'un lac, a priori. Alors, je sais pas si c'est un lac ou fleuve, ou je ne sais pas, à Berlin. Il y a des photos aussi en vacances, les vacances d'été. Ça, c'est le côté un peu tranche de vie, entre guillemets. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il y a un côté que j'ai trouvé très amusant, c'est se servir un peu des mèmes ou des choses un peu rigolotes qu'on voit parfois passer sur les réseaux sociaux et se l'approprier. Les fameuses 4 photos différentes entre LinkedIn, Facebook, Instagram et Tinder. J'avoue que ce truc-là, le montage est vraiment marrant. Franchement, pour le coup, c'est bien pensé et je trouve ça assez marrant.
C'était pour sa signature au Hertha Berlin. En fait, on voulait marquer le coup. Et c'était à ce moment-là que ce mème circulait. Et on s'est dit, c'est l'occasion de surfer dessus. C'est marrant, justement. Enfin, la photo Facebook où t'es à la cool, la photo LinkedIn où t'es bien. Et puis la photo Tinder, ça match avec le Hertha Berlin puisque c'est le club où tu signes et c'est ton nouveau club. Donc on s'est dit, allez, on tente. Et c'est vrai que ça a été super bien relayé sur les réseaux. Les supporters du Hertha ont adoré. Donc ouais, c'est aussi le travail qu'il faut faire, le travail entre guillemets de veille sur les choses qui se passent, les choses qui se font, et essayer de rebondir là-dessus pour nos joueurs.
Et dernier élément que je voulais évoquer avec toi, il y a au mois une publication du mois de mars, rester à la maison. Ça n'a jamais été aussi facile de sauver des vies. Donc là, on est vraiment dans le côté plus citoyen que footballeur. Est-ce que c'est un sujet de discussion? Comment vous l'abordez avec les joueurs? J'imagine que c'est eux qui... Alors, soit ils vous en parlent, ou soit ils le font instinctivement tout seuls. Mais quel est votre échange sur les sujets de société, notamment? Là, c'est un vrai sujet, parce que c'était au tout début de l'épidémie Covid, et je crois que c'est le jour où le confinement a été annoncé, le 16 mars, si je dis pas de bêtises. Et c'est une prise de parole forte pour un footballeur. Et parfois, on attend aussi ça. On attend aussi ça parce qu'on sait que c'est des gens qui sont très suivis. Tu parlais tout à l'heure du rôle de modèle. Et effectivement, moi, je considère qu'un footballeur, à aucun moment, ne doit être un modèle. C'est simplement un être humain comme les autres, avec ses forces, ses faiblesses, ses failles, comme ses bons côtés. Et que bah, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Et comme tu le disais, à 18 ans, 20 ans, 21 ans, même 30 ans, on peut faire des erreurs. Mais c'est vrai que cette prise de parole-là, parfois, elle est encouragée. On entend souvent des journalistes ou même des supporters dire ce serait bien qu'ils s'expriment sur tel ou tel sujet. Parfois, c'est critiqué, à l'inverse. Comment vous gérez ça avec vos joueurs?
Là-dessus, on a toujours été clair avec les joueurs. Nous, on est force de proposition, mais après, on ne veut pas trahir leur personnalité. C'est-à-dire que là, par exemple, pour le confinement, on a proposé à nos joueurs, on leur a dit, voilà, nous, on voit que c'est le confinement, il y a sûrement un message à faire passer là-dessus parce que c'est très important. Et il y a des choses à respecter, ça ne va pas être simple pour tout le monde, et il y aura sûrement des gens qui voudront ne pas respecter, etc. On vous le propose, est-ce que vous voulez le faire ou pas? Ça a été pareil avec le mouvement Black Lives Matter, où voilà, il y a eu pas mal de choses qui sont mises en place sur les réseaux, et on a dit à nos joueurs, écoutez, nous, on vous propose de poster, maintenant, c'est vous en tant que citoyen qui décidez si oui ou non vous voulez vous positionner. Nous, on n'est pas là pour vous dire, ouais, mais c'est bien, tu vas voir, c'est le sujet qui buzz en ce moment. Et puis en plus, si tu fais un truc sur ça, tu vas voir, tu vas prendre 100 000 followers, ou enfin 10 followers, ou 15 followers, ou 100 followers, ou j'en sais rien. Nous, vraiment, l'idée, c'est de leur dire, c'est votre réseau malgré tout, donc c'est votre image qui va être en jeu. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Nous, on vous propose de le faire, parce qu'on estime que c'est important, parce qu'on estime que la cause, nous, en tout cas, nous touche, à titre personnel. Maintenant, est-ce que vous voulez le faire ou pas? Et ensuite, c'est chacun, avec son libre arbitre, qui va nous dire, bah, écoutez, moi, sur ce sujet-là, je vais passer. Ou d'autres qui vont nous dire, bah, au contraire, ouais, on va y aller, parce que moi, ça me tient à cœur aussi, et c'est vrai que j'ai envie de le faire maintenant que vous m'en parlez. Donc c'est vraiment du cas par cas, avec, encore une fois, en ligne de mire, la perception que le joueur peut avoir et le respect de sa décision.
Parmi les dérives sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, peu importe, même Facebook, pour ceux qui sont encore sur ce réseau, il y a les commentaires haineux ou simplement insultants en cas de contre-performance. Alors, on part du principe que chaque joueur a sa propre personnalité, que chacun réagit donc à sa façon, à sa manière. Comment vous conseillez vos joueurs là-dessus, quand ça ne va pas bien, en fait? Parce que finalement, j'ai pas envie de dire que c'est facile de communiquer quand tout va bien, mais on va dire que c'est plus facile, en tout cas. Quand ça va moins bien, quelle est votre approche avec eux? Et notamment, un match important qui est perdu, ou vraiment une performance où un des joueurs passe à côté, et peu importe, il marque un but contre son camp qui est décisif, ou ce genre de choses-là. Quels sont les conseils, en gros? Essayez déjà d'éviter de consulter les réseaux sociaux les lendemains de défaite, par exemple. Ne pas répondre, surtout, aux provocations, aux insultes.
Alors déjà, moi, je voulais mettre quelque chose en avant, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Les supporters ou les personnes sur les réseaux sociaux qui, voilà, vont critiquer les joueurs, enfin, critiquer, notamment sur Twitter, c'est plus que des critiques, c'est souvent des insultes sous les posts, et pensent que les joueurs sont blindés, ou que les joueurs ne regardent pas, ou pensent que sous prétexte que, bah, voilà, ce sont des joueurs... ils sont payés une certaine somme, ils sont professionnels, donc ils doivent accepter les insultes, les critiques, etc. Moi, j'ai entendu parler d'un joueur, c'est pas un de nos joueurs, mais voilà, c'est un joueur qui est en Ligue 1, qui regarde très souvent ce qui se dit sur ses réseaux. Je sais que ça le touche au point de se sentir mal après les matchs, de ne plus parler, de rester dans son coin dans le vestiaire après le match, parce qu'il voit les commentaires et que ça le bloque totalement. Et je me dis que les gens ne se rendent pas compte, en fait, de l'impact que ça peut avoir sur le mental et le moral des joueurs. Alors oui, certes, ils touchent une certaine somme. Oui, certes, ils sont privilégiés, etc. Mais
et encore pas tous, hein, parce que ça, c'est toujours le c'est le fameux exemple des joueurs qui touchent le plus. Mais un joueur moyen de... Alors, ça reste des hauts salaires, hein, c'est pas la question. Hein. Mais même un joueur de Ligue 2, c'est pas le contrat de Cristiano Ronaldo. Hein.
Ah bah ça, on est d'accord. Et c'est vrai que voilà, sous prétexte de ces légendes urbaines, voilà, je vais dire, du joueur riche qui a la belle vie, on doit tout se permettre vis-à-vis de lui. Encore une fois, je mets au défi ces personnes de vivre la même chose au quotidien et de se rendre compte de ce que c'est. Des fois, on voit des posts, mais il y a un an ou deux ans, avec un de nos joueurs, on mettait un post sur Twitter. Toutes les réponses, c'était « dégage de mon club, sale FDP, t'as rien à faire ici, va te faire foutre », enfin, que des trucs comme ça, et des centaines, c'est que ça, tout le temps. Nous, ce qu'on dit du coup à nos joueurs, honnêtement, moi je suis honnête avec ça, moi je dis à nos joueurs de ne pas regarder, très sincèrement. Je leur dis, écoutez, servez-vous des critiques constructives, notamment sur d'autres réseaux, voilà, que ce soit Facebook ou Instagram, où là, les gens sont plus mesurés, où il peut y avoir des critiques, et il n'y a pas de souci, la critique, elle fait partie du boulot, et quand tu n'es pas bon, il n'y a pas de mal à dire que tu n'es pas bon. Et eux-mêmes, les gens, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent sur ça, les joueurs sont aussi critiques envers eux-mêmes, il ne faut pas croire que dans leur tête, tout est beau et tout est rose, et qu'ils ne se rendent pas compte quand ils sont mauvais. Voilà, regardez sur ces réseaux-là si vous le voulez, mais par contre, sur Twitter, honnêtement, je leur dis, c'est à proscrire, parce qu'il y a un tel déversement de haine et de la recherche, entre guillemets, de la bonne phrase, parce que sur Twitter, toute parole se vaut, que voilà, il suffit qu'un petit tweet en dessous fasse un petit peu le buzz et hop, ça va faire 1000 retweets et voilà, ça va faire un buzz et ils vont se sentir pousser des ailes, ils vont ensuite jouer à ça et ça va devenir la nouvelle mode de bah, celui qui fera le plus de tweets en insultant le joueur. Et moi, je leur dis honnêtement, ne regardez pas parce que, à part vous pourrir le cerveau et vous faire du mal, je pense que vous êtes suffisamment critique envers vous-même, que vous avez un entourage aussi qui est là pour vous critiquer, que vous savez, vous êtes au courant de vos mauvaises performances. Que le coach vous le dit, que les coéquipiers vous le dites, vous n'avez pas besoin que @Ricky du 69 ou je ne sais pas quoi vous dise si vous êtes bon ou pas. Au final, on s'en tape, quoi, concrètement. Donc voilà, moi je leur dis clairement, voilà, évitez.
Je vais prendre un exemple. Alors je suis désolé, ça tombe encore sur lui, de Lucas Touzard.
Pas de problème.
Alors, je ne sais pas si c'est de lui dont tu parlais juste avant, mais je crois pas. Je pense savoir de qui tu parlais, un de vos joueurs qui avait subi comme ça beaucoup d'insultes. On sait que Lucas a reçu pas mal de critiques à un moment donné dans son parcours à l'Olympique Lyonnais sur les performances et peut-être parfois même plus sur le profil de joueur qu'il était, plus que parfois sur les performances, parce qu'on attendait autre chose à ce moment-là, enfin, des supporters attendaient autre chose à ce moment-là d'un milieu de terrain à l'OL. Comment vous avez géré cette situation-là avec lui, toutes ces nombreuses critiques? J'imagine qu'il y avait des insultes aussi parce que c'est commun sur les réseaux sociaux, mais comment vous avez géré ce cas-là? Si on peut parler un peu de ce cas-là en détail sans forcément rentrer dans tous les secrets, mais pour que les gens se rendent compte un peu de votre travail dans les situations, on va appeler ça de crise, qui est un terme de communication, mais pour le coup, c'est un peu le cas quand même.
Bah Lucas, ouais, il y avait des deux. Donc Lucas, bah il y avait les insultes. Hein, parce que de toute façon, sur Twitter, n'importe quel joueur ne peut échapper aux insultes. Hein, c'est comme ça. Sur Twitter, on se fait insulter, c'est la règle. Bon, faut faire avec, c'est comme ça. Mais il y avait aussi les, voilà, comme tu dis, les critiques sur le profil où là, on avait des fois des running gags avec. Dès que Lucas postait quelque chose, il y avait en réponse, fais des passes vers l'avant, fais des passes vers l'avant, ouais. Fais des passes vers l'avant. Donc bon. Ça, à la limite, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est bon enfant. Bon, c'est de la critique entre guillemets, enfin, pas complètement constructive, mais au moins ça parle de foot, ça parle de quelque chose. On aime ou pas le profil de Lucas, il n'y a pas de souci, on peut le dire, voilà, il n'y a pas de mal. C'est comme quand Juninho avait dit en conférence de presse qu'il voulait un profil plus technique et que tout de suite ça a été monté en épingle, alors que Lucas n'a pas eu de souci particulier avec cette phrase. Le directeur sportif a le droit de dire qu'il aime un profil différent, il n'y a pas de mal. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Bah, avec Lucas, en fait, il a assez de recul par rapport à ça. C'est un joueur qui a assez la tête sur les épaules et qui a un entourage assez stable, etc. Donc, il réfléchit beaucoup.
Je me permets juste de te couper parce qu'il est jeune quand même, Lucas aussi. Hein.
Ouais, il est jeune, mais il a beaucoup de gamberges par rapport à ça. Et pour tout te dire, hein, une fois, on m'a raconté. Donc, je connais un gars qui est supporter de l'OL et qui va régulièrement aux entraînements et qui m'a dit qu'une fois, il a parlé pendant une heure avec Lucas Touzard, que Lucas s'est arrêté parce qu'il voulait lui parler, donc il s'est arrêté. Il lui a dit, voilà, moi, je ne comprends pas pourquoi ton jeu en ce moment. Je me souviens d'un match de toi à Monaco il y a 2 ans où tu avais été monstrueux et depuis, on ne retrouve pas ça. Depuis, tu es un peu dans le dur. Voilà, tu n'as plus cette prise d'initiative, etc. Et pendant une heure, Lucas s'est arrêté, sans savoir que je connaissais cette personne. Hein, tu vois, il y avait pas de, voilà, c'était comme ça, improvisé. Et pendant une heure, ils ont débattu voilà, sur le rôle de Lucas Touzard, sur comment il voit les choses, sur comment lui il se sent, etc. Et du coup, cette personne est revenue vers moi quelques jours après, en me disant, en fait, tu sais pas, j'ai parlé avec Lucas, machin et tout. Je lui ai dit, ah bon, il m'en a pas parlé, je n'étais pas au courant, tu vois. Il m'a dit, ouais, pendant une heure, il s'est arrêté, on a discuté. C'était super intéressant parce que voilà, je l'ai critiqué, il a pris les critiques, il n'y avait pas de problème, il ne l'a pas pris personnellement, il ne m'a pas haussé le ton, etc. Au contraire, on a bien échangé, on a eu un échange constructif, un débat. Et j'ai trouvé ça super intéressant voilà, qu'un joueur, sans qu'on lui demande quoi que ce soit en plus, prenne le temps de discuter. Parce qu'on croit que les joueurs, encore une fois, sont des machines, sont des robots, ou ne se rendent pas compte, sont un peu hors sol, ils ne se rendent pas compte de la réalité. Mais Lucas, en tout cas, c'était l'exemple contraire. C'est-à-dire que lui, il a très conscience quand il est bon et quand il ne l'est pas. Et quand il y a des critiques constructives, il n'hésite pas à parler, à s'exprimer sur ça. Et j'ai trouvé ça très fort de sa part d'avoir fait ça.
On a pris l'exemple jusque-là des joueurs qui pouvaient éventuellement déraper dans leur communication. Il y a un phénomène de plus en plus important, ou inquiétant même, pour les joueurs, c'est le comportement de l'entourage. aussi sur les réseaux sociaux. L'entourage au sens large, hein, ça peut être les compagnes ou les compagnons pour les joueuses, ne les oublions pas non plus, les membres de la famille, des amis, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un vrai phénomène, parce qu'on a tous en tête des choses qui se sont passées il n'y a pas si longtemps que ça, où des compagnes de joueurs sont venues à insulter l'entraîneur, ce genre de choses-là. Est-ce que vous, au sein de votre agence, il vous arrive de faire un peu de prévention et d'éveil à la bonne communication sur les réseaux sociaux avec l'entourage? Alors ça peut être de manière directe, donc avec l'entourage, ou de manière indirecte à travers votre joueur?
Alors je touche du bois parce que le cas de figure de l'entourage qui insulte l'entraîneur ou les supporters n'est pas encore arrivé chez nous. Donc je touche du bois pour que ça n'arrive jamais. Malgré tout, ouais, c'est déjà arrivé qu'on ait affaire à de l'entourage pour discuter de certaines choses. Parce que je sais que voilà, des fois l'entourage ne se rend pas compte. Mais par exemple, quand il y a un article qui ne plaît pas dans les médias, des membres de l'entourage qui veulent ensuite parler avec le journaliste, avoir des réponses, etc. Et nous, on va leur expliquer que bah non, c'est pas comme ça que ça marche et que c'est pas défendre le joueur que de faire ça. C'est au contraire lui mettre une balle dans le pied que de vouloir mettre entre guillemets des petits coups de pression ou autre au journaliste. Parce que bah, de un, le journaliste, il peut dire ce qu'il veut, il est dans son droit. Il n'y a pas de problème, c'est son droit de critiquer s'il y a matière à le critiquer. Et puis encore une fois, comme je dis toujours à nos joueurs, c'est que si déjà au bout de 2, 3 ans, 4 ans de carrière, il y a déjà des problèmes comme ça, pour continuer sur la durée, ça ne va jamais le faire. Et il faut se rendre compte qu'une carrière, c'est long et qu'une réputation, ça se fait vite et qu'il faut faire très attention à ce genre de choses. Donc après, voilà, on n'a pas trop eu de cas, c'est déjà arrivé une ou deux fois ce genre de choses, mais globalement, il n'y a jamais eu trop de problèmes avec l'entourage des joueurs, pour l'instant, je dis bien pour l'instant.
Comme dirait un célèbre commentateur, en tout cas, on te le souhaite. S'il faut éviter tout dérapage aussi sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est aussi devenu une source de revenus pour les joueurs. C'est-à-dire que les équipementiers aiment les joueurs avec une grosse communauté, les marques qui veulent s'associer aux joueurs également, et ça, j'imagine que les joueurs s'en sont bien rendus compte et l'ont bien compris aussi, ça.
Bien sûr, bien sûr. Les réseaux sociaux, c'est aussi devenu une source de, entre guillemets, de revenus annexe pour le footballeur. Après, là, c'est pareil. Je profite de la tribune que tu m'offres pour démystifier ça. Ça touche que très peu de footballeurs.
Bien sûr.
C'est vraiment très rare. Le joueur lambda de Ligue 1, il n'a pas de contrat qui lui permette ensuite de dégager des revenus en faisant des posts sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo qui peut se faire 1 million d'euros en un post sur Instagram.
Par contre, l'équipementier peut se servir aussi de ça dans les négociations. Sa notoriété, la taille de sa communauté peut avoir une influence.
Par contre, ça, tout à fait. Voilà, pour les équipementiers, là, par contre, ça peut avoir une influence. Plus la communauté est grosse, plus l'équipementier peut ensuite donc se servir du joueur pour mettre en avant ses nouveaux produits, ses nouvelles baskets, etc. Plus là, il peut y avoir ensuite des euros à gagner. Mais de là à dire ensuite que les joueurs vont diversifier leurs revenus, vont avoir plusieurs contrats avec des marques, etc., en se servant de leurs réseaux sociaux, pour l'instant, on est encore en tout cas très loin du compte au niveau des joueurs de Ligue 1. Ça touche, les joueurs du PSG et une poignée d'autres, ça touche personne pour l'instant.
Une dernière question sur les réseaux sociaux. Toutes les questions que je t'ai posées, en fait, je suis parti du principe où c'est le joueur qui gérait son compte lui-même. C'est-à-dire que vous étiez là pour l'assister et le conseiller, mais que finalement, la prise de décision et même l'action en elle-même, c'était le joueur qui le faisait. Est-ce que des joueurs vous ont demandé de gérer vous-même ces réseaux sociaux, parce que soit un peu la flemme, soit pas forcément l'appétence pour les réseaux sociaux, mais il sait que c'est une nécessité, ou soit tout simplement pas à l'aise pour communiquer?
Alors la prise de décision, elle se fait toujours en commun, parce que nous, c'est ce qu'on leur explique toujours, c'est on veut les mettre à contribution, parce que qu'ils le veuillent ou non, c'est leur image à eux. Donc, il faut qu'ils aient leur mot à dire dessus. Donc, la prise de décision, quand on va leur proposer des textes, on va leur proposer du choix dans les images, etc., mais on leur laisse décider ensuite de quel texte choisir et quelle image choisir. En revanche, oui, effectivement, autant il y a des joueurs qui aiment les réseaux sociaux et qui du coup vont nous dire « malgré tout, je vais le gérer moi-même ». Donc on se met d'accord sur le texte, etc. Et ensuite, c'est eux qui publient. À l'inverse, il y a des joueurs qui détestent ça parce que, comme tu le dis, c'est pas dans leur appétence, c'est pas dans le style de vie, c'est pas ce qu'ils aiment. Et du coup, ils vont nous dire « par contre, c'est vous qui publiez pour moi ». Et là, effectivement, c'est nous qui allons ensuite faire les clics, mettre la photo, etc. Mais bien sûr, toujours en accord avec le joueur sur les choix des contenus, parce que c'est son image et qu'on ne veut surtout pas lui mâcher le travail, parce que c'est comme pour ce qui est de la partie travailler avec les journalistes. On ne veut pas en fait faire tout de A à Z et que le joueur ait rien à faire, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Le joueur est partie prenante, c'est son image, c'est lui qui est entre guillemets en première ligne. Donc on veut et on tient, et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que le joueur choisisse avec nous, toujours.
Mais du coup, si c'est vous qui gérez le contenu, le compte, est-ce que c'est pas justement plus difficile pour récupérer le contenu ? Parce que si le joueur a la main sur le compte, je veux dire, une story faite avec son coéquipier dans le vestiaire, c'est facile, et en un clic, c'est fait. Si là, c'est vous, il est obligé de vous transmettre la vidéo, que vous vous en occupez derrière, est-ce que pour vous, au final, c'est pas plus compliqué? Et du coup, on peut avoir le sentiment que c'est un peu moins naturel dans le process.
Non, non, bien sûr, parce que pour tout ce qui est story, de toute façon, nous, ce qu'on leur dit, c'est de le faire eux-mêmes. Non, non, qu'on soit bien d'accord. Nous, on se gère la partie voilà, post, publication, etc. Mais après, on leur dit toujours, même si on a les accès au compte, lui, il les a également. Donc, lui peut aussi poster deux, trois fois quand il a envie. Et ensuite, pour les stories, nous, on va l'inciter à le faire parce que voilà, c'est important de faire des stories de temps en temps. Donc, non, non, oui, qu'on soit bien d'accord, le joueur a également accès à son compte. Et si on le gère, on va dire grosso modo, ben, 80% du temps pour tout ce qui est les posts au quotidien. Ben, pour les trucs comme ça, les trucs particuliers, les stories ou puis des petits posts comme ça de famille ou ce genre de choses, c'est le joueur qui a la main dessus, on est d'accord.
Petite question boutade entre guillemets, vous gérez pas mal de comptes, ça vous est jamais arrivé de poster un truc sur le profil de Mehdi Zerkane qui concernait Lucas Touzard?
Si je fais la réponse politiquement correcte, je vais dire évidemment que non. Si je fais la réponse réelle, c'est possible que ce soit arrivé une ou deux fois, mais ça n'a pas duré plus d'une ou deux secondes et heureusement, ça a vite été enlevé. Voilà.
Ouais. C'est le multi-compte n'est pas toujours facile à gérer et parfois, on peut passer à côté. C'est arrivé à je veux dire, ceux qui gèrent plusieurs comptes, même à leur échelle, hein, leur propre échelle, le compte personnel, le compte du média, par exemple, etc., si on parle de journaliste, ou même d'un club, hein, entre le community manager d'un club et son compte personnel, parfois, il y a eu des petits soucis. C'est une réalité.
Mais c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'était plus souvent de croire publier sur le compte du joueur et en fait publié sur mon compte. C'était plus dans ce sens-là plutôt qu'entre deux comptes de joueurs. Oui, c'est déjà arrivé, mais heureusement, on se rend compte assez rapidement, on enlève ça au bout d'une seconde et on le refait, donc généralement, ça passe inaperçu. Enfin, j'espère.
Dernière petite question, quelle est votre relation avec les départements médias des clubs dans lesquels évoluent vos joueurs? Parce que ça, c'est un sujet qui m'intéresse, parce que là, on a beaucoup parlé des joueurs qui communiquaient à travers vous, mais il y a aussi des clubs qui communiquent à travers les joueurs, pour le coup. Et eux aussi, les clubs sont directement impactés par la bonne ou la mauvaise communication d'un joueur. On prend l'exemple de Serge Aurier. Alors, les gens vont dire, ah, il parle encore de Serge Aurier, donc on pourrait peut-être prendre un autre exemple. Mais si demain, on va prendre un autre exemple hypothétique, pour le coup, pour pas partir sur Serge Aurier. Mais si demain, un joueur du Stade Rennais, sur ses réseaux sociaux, fait quelque chose de totalement hors du commun et hors du commun de façon négative, on va parler de ce joueur-là comme étant un joueur du Stade Rennais. Donc forcément, il y a un impact sur le club derrière. Quelles sont vos relations avec les départements médias, départements presse, des clubs dans lesquels évoluent vos joueurs? Parce que ce que vous faites, vous, peut avoir un impact sur eux.
Bah, généralement, on est en bonne entente avec eux. Donc, il y a un vrai travail voilà, qui se fait de mise en relation avec les départements presse de ces clubs-là. Il y a des fois des départements presse qui ne se rendent pas compte de l'importance et qui, du coup, ne vont pas spécialement, entre guillemets, nous calculer. Mais de plus en plus, voilà, les départements presse sont sensibilisés au réseau parce que je pense que eux aussi, avec les réseaux des clubs, ils se rendent compte aujourd'hui de l'impact que ça peut avoir. Et du coup, oui, non, il y a un vrai travail qui se fait de mise en relation, que ce soit pour le travail sur les réseaux, mais aussi sur le travail dont on parlait de préparation d'interview, etc. Parce que quand nous, on aimerait faire parler un joueur dans tel ou tel média, il faut forcément aussi avoir l'aval du club. Donc voilà, il y a un vrai travail de mise en relation pour discuter du timing, pour trouver une date, trouver un lieu où faire l'interview, des petits détails comme ça de travail de mise en place en amont qu'on doit faire ensemble. Donc les clubs sont de plus en plus ouverts à ça et surtout se rendent compte que c'est devenu important parce que eux-mêmes ont énormément de choses à gérer. Et je pense que ça les soulage aussi de savoir que les joueurs sont entourés, ça apporte de la stabilité et de savoir que le joueur, quand il va communiquer, il n'est pas livré à lui-même. Ils savent où le joueur met les pieds et qu'il est bien entouré. Donc ça, je pense que c'est important, même pour eux.
Pour résumer notre entretien, Khaled, si tu devais trouver les 3 ou 4 choses qui témoignent de l'importance d'une bonne communication pour un joueur de foot, qu'est-ce que tu donnerais comme élément ?
C'est pas simple comme question, mais premier argument qui me vient, c'est que c'est bête à dire, hein, c'est même un constat un peu triste, mais à niveau sensiblement égal entre deux joueurs, la préférence pour un club ou même pour une sélection nationale se fera, je pense, sur celui qui communique le mieux. Et je dis ça, je trouve pas ça spécialement que ce soit une bonne chose, mais je pense que ça se remarque beaucoup de plus en plus, notamment au niveau des clubs, où des fois on voit des recrutements où on se dit mais pourquoi spécialement ce joueur ? Et on se rend compte qu'en fait la résonance que peut avoir justement le joueur en question sur les réseaux, le nombre de followers, ce genre de choses, peut avoir un impact direct, et je pense, hein, sur son recrutement ou pas par un club. C'est quelque chose que j'ai remarqué ces derniers mois, ces dernières années, qui tend, j'ai l'impression, à de plus en plus exister. Ensuite, j'ai pas trop d'autres éléments comme ça qui me viennent en tête, mais vraiment celui-là me marque beaucoup, enfin il m'interpelle beaucoup, de me rendre compte à quel point ça peut avoir des répercussions en fait sur la carrière d'un joueur, en bien comme en mauvais. Donc là, j'ai parlé du cas bien, Mais ça peut aussi être le cas mauvais où des joueurs sont retrouvés avec des contrats signés et malheureusement rompus en à peine une heure. Tout ça pourquoi ? Parce que des anciens tweets de lui ont été déterrés au cours desquels il critiquait son nouvel employeur. Typiquement en Espagne, il y a eu un cas d'école avec un joueur qui venait de signer au sein de la réserve du FC Barcelone. Ce qui était le rêve d'une vie pour lui, et qu'il se retrouve une heure après à voir son contrat être rompu parce que des tweetos ont déterré des anciens tweets de lui anti-Barça et pro-Real Madrid. De se rendre compte à quel point en fait, la communication aujourd'hui avait un réel impact. On n'est plus sur un impact, entre guillemets, une mauvaise image, etc. On est vraiment sur une carrière qui peut basculer en bien comme en mal. Je trouve que ça en dit long aujourd'hui sur la place qu'a pris la communication, la place prise par la communication dans la vie d'un footballeur.
Et justement, le comble pour un communicant, c'est de le remarquer et même de le déplorer.
Oui, je pense que ça, c'est aussi mon côté ancien journaliste qui fait que je ne suis pas 100% communicant et que c'est entre guillemets, c'est pas parce que ça va dans le sens de mon boulot actuel que je vais me réjouir de ça. Voilà, c'est quelque chose qui quand même est assez dingue de se dire que ne serait-ce que des tweets d'un joueur quand il avait 16 ans, qui était encore un ado et qui ne se rendait pas compte qu'il serait peut-être footballeur pro et qui tweetait comme un ado de 16 ans, peut être supporter du Real et on va adorer voir le Real battre le Barça, ce qui est la moindre des choses quand on est supporter du Real et qu'on est ado, peut avoir des répercussions 3, 4, 5 ans après quand en fait il s'avère qu'il est pro et que une carrière pro fait qu'on peut signer dans un club qui peut être son club ennemi quand on était supporter. Mais voilà, on met les sentiments de côté, on est professionnel et on endosse fièrement le blason de son nouveau club. Mais non, la preuve que non, ça marche pas comme ça.
On arrive au bout de l'entretien, Raled, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ? Est-ce que tu as un nom en particulier à me soumettre ? Ou plus simplement, si tu n'as pas de nom directement, un métier que tu aimerais que les auditeurs puissent découvrir, approfondir, redécouvrir et beaucoup d'autres verbes en « ir
». Moi, il y a un homme dans ce milieu que j'aimerais mettre en valeur parce qu'il a débarqué il n'y a pas si longtemps que ça dans ses fonctions et je trouve qu'il a pris une dimension assez dingue. Je trouve que son travail est remarquable.
Je pense que j'ai l'impression avec ta description qu'on va rester dans le Rhône, vrai ou pas ?
C'est fort probable. Et qu'il a une dimension humaine qui est assez rare dans ce milieu malheureusement. Tu l'as reconnu, je pense, c'est Juninho. Depuis qu'il est devenu directeur sportif à l'OL, et pourtant encore une fois, ça prêche pas forcément pour ma paroisse, puisque il a pu être critique à l'égard de Lucas Touzard, etc. Donc je reste neutre et droit dans mes bottes par rapport à ça. Et je tiens à souligner l'entièreté de cet homme. J'ai la chance de le connaître un peu personnellement et d'échanger de temps en temps avec lui. Et c'est vraiment quelqu'un de rare dans ce milieu, qui a des vraies valeurs, qui sait faire passer l'intérêt de son club avant le sien, qui sait faire passer l'intérêt du groupe, l'intérêt collectif, l'intérêt de des salariés du club avant le sien. Il y a qu'à voir son attitude avec la crise économique et la baisse substantielle du salaire qui s'est imposé à lui-même pour se rendre compte que pour lui, tout n'est pas une question d'argent, alors que malheureusement, dans ce milieu, c'est souvent le cas. Et voir comment il a pu être critiqué à ses débuts quand il est arrivé. Le choix Silvino qui n'a pas été bon, ça a été un peu chaotique au départ. Mais voir que tout se met en place petit à petit, que ses choix payent, qu'aujourd'hui l'OL est deuxième de Ligue 1 et en course potentiellement pour un titre, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et voir que ses choix sportifs payent, avec tout ce qui s'est pris dans la tête à son arrivée, et puis avec tout ce qu'il est en train de mettre en place aussi dans l'ombre, je tenais à lui tirer un grand coup de chapeau, et rien que pour ça, je tenais à mentionner son nom.
Ça va me faire une très belle invitation à lancer à l'Olympique Lyonnais et à Juninho. Merci Raled Karoury pour ta disponibilité, ta confiance et à très vite.
À très bientôt et merci à vous pour l'invitation surtout.
Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cet entretien, c'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.